Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tout le monde, une nouvelle émission littéraire de Par le bout de la lorgnette, une 29e émission, je vais y arriver, exactement, avec nos chroniqueuses qui sont présentes, Nico qui est pas loin mais qui n'est pas disponible, le connaissant il va venir nous faire un coucou certainement dans cette émission, et Louise est là, salut Héloïse.
Salut à tous.
Valérie, bonjour.
Et salut.
Et Pauline qui est présente.
Salut tout le monde.
Alors une émission aujourd'hui sur les romans de terroir.
Non, tout à fait.
Arrête avec les romans de terroir.
Dis-moi, Héloïse, sur quoi ?
C'est une émission en fait autour de l'agriculture, de la paysannerie dans les livres. Donc il peut y avoir des romans effectivement de terroir, mais il peut y avoir aussi des documentaires, des essais, des BD. Il peut y avoir tout plein de choses.
C'est ce que nous allons voir durant Absolument. Cette émission. Mais tiens, Héloïse, comme tu as la parole, on va te la laisser.
Très bien. Je vais commencer donc assez fort avec un livre qui s'appelle « Le manifeste pour un 21e siècle paysan » de Sylvia Pérez-Vitoria. Donc je vais vous dire un petit mot sur l'auteur. Alors, est-ce que vous la connaissez ? Ça vous dit quelque chose, ce nom ?
Du tout.
Non ?
Non.
Enfin, du coup, c'est, enfin, moi non plus, avant de lire ce livre, et pourtant, c'est vraiment une experte, une spécialiste de la question paysanne. Et
comme
qui
Valérie.
A...
Valérie qui va nous parler de son expérience paysanne.
Absolument.
Donc, oui, comme Valérie, mais plus à l'international, on va dire, et qui est une grande défenseuse, en fait, de la cause paysanne, et elle collabore avec tout un tas de médias très importants, comme le Monde diplomatique, Alternative économique, et des choses comme ça, voilà. Donc, c'est une vraie experte. Donc, elle est économiste, sociologue et documentariste. Elle a réalisé pas mal de documentaires, en fait, sur la question paysanne, et notamment en Amérique du Nord et du Sud. Donc, elle voyage énormément. Comme je vous disais, elle collabore régulièrement avec le Monde diplomatique et le journal L'Écologiste. Donc, ce livre, Manifeste pour un 21e siècle paysan, c'est le troisième d'une série. Le premier se nomme La riposte des paysans. Le deuxième, Les paysans sont de retour. Et donc, voici le troisième qui achève donc, cette série. Donc, vous remarquerez que dans le titre, dans tous les trois titres, en fait, le mot paysan apparaît. Donc, je ne sais pas ce que ça vous évoque, ce mot.
Moi, je l'aime bien, en fait.
Oui.
C'est pour les gens, les agriculteurs, je trouve que paysan, c'est vraiment le terme qui, pendant un moment, a fait péjoratif. Et en fait, pour moi, c'est paysan, c'est comme artisan, c'est comme commerçant.
Voilà,
c'est,
tout à fait.
C'est une vocation, c'est pas quelque chose de...
Oui, c'est beaucoup mieux qu'exploitant agricole qu'on utilise maintenant, parce que justement, paysan était devenu péjoratif, alors que les paysans eux-mêmes sont fiers de se nommer paysan.
Absolument. Ouais.
Voilà, donc, parce que la définition du Larousse actuel du mot paysan, c'est « personne qui vit à la campagne de ses activités agricoles ». Entre parenthèses, ces synonymes sont souvent employés à cause du sens péjoratif du mot. Et j'ai l'impression qu'on revient effectivement à... qu'on essaye de ce mot de le réhabiliter à son sens juste en fait, et c'est ce que l'auteur essaye en fait, je pense, en le mettant en valeur dans tous ses titres et dans tous ses livres. Donc bravo Valérie, tu as même expliqué que Sylvia,
c'est le bon sens paysan.
Et puis ça marque une différence avec une autre forme d'exploitation agricole, et ce qui est importante, je pense, quand on parle de paysan, on parle pas forcément de tous les exploitants agricoles.
Évidemment.
Le grand céréalier président de la FNSEA ne se reconnaît peut-être pas dans le mot paysan. Bim, je vais tout faire.
Donc voilà, donc ce texte est clairement engagé, comme le titre le laisse entendre, donc c'est vraiment un manifeste. Il s'agit vraiment d'un cri de rage. Elle essaye de nous faire comprendre en fait pourquoi c'est mal en fait que les paysans, que la paysannerie disparaissent de notre monde. Elle essaye d'apporter des solutions. Voilà, je pense que le but de ce livre, c'est vraiment d'essayer de nous apporter, de nous ouvrir les yeux sur certaines réalités, certaines vérités, en fait, sur la condition des paysans dans le monde. Donc, le livre est constitué de 4 parties. Donc, première partie, colère. Deuxième partie, imposture. Troisième partie, rupture. Quatrième partie, dissidence. Voilà. Donc, dans la première partie, elle dénonce les pratiques qui sont mises en place sous le couvert du développement et de l'écologie et qui font disparaître les paysans. Alors, c'est assez... Enfin, je ne vais pas dire que c'est technique, mais c'est... Il faut s'accrocher un peu, en fait, pour comprendre. Et je vais essayer d'être claire. Si je ne le suis pas, dites-le-moi.
En t'arrêtant.
Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle donne tout un tas d'exemples qui permettent, en fait, de comprendre vraiment... ce qu'elle dit, et je vais m'appuyer sur ces exemples notamment. Donc dans Colère, elle parle tout d'abord du projet REDD, lancé par les Nations Unies. C'est le projet de réduction des émissions dues à la déforestation. Donc elle explique, enfin, sur le papier ça semble très bien le REDD, c'est positif, voilà, etc. Mais elle explique qu'en réalité il s'agit d'un leurre, car quand on détruit une forêt primaire et qu'on replante des eucalyptus ou des palmiers à huile à la place, certes, on replante des arbres, évidemment, mais il ne faut pas se cacher, c'est à des fins économiques. Et on a détruit un écosystème impossible à remplacer. Donc le texte est flou et sert finalement et sert le capitalisme, quoi, et l'économie. Et donc c'est des choses, en fait, qui sont des textes qui, a priori, sur le papier, semblent très bien et semblent vouloir sauver un certain écosystème, être écologique, etc. Mais qui ont des zones de flou qui servent, en fait, l'économie mondiale. Voilà, c'est sur ce genre d'exemple qu'elle s'appuie. Il y a aussi quelque chose contre laquelle elle est très en colère, ce sont les prises des terres, les annexions des terres aux paysans. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'accords entre différents pays, notamment il y a un exemple entre le Mali et la Libye. Le Mali, en fait, a passé un accord avec la Libye pour qu'ils aient ces 100 000 hectares aux abords du fleuve Niger pour faire, en fait, des plantations de riz, que du riz. Donc, des familles entières sont déplacées, leurs jardins familiaux sont détruits, leurs cimetières, tout est détruit. Et donc, on leur expose ce projet-là en disant, ça créera de l'emploi, ça créera de la richesse, vous aurez des matières premières, etc. Mais finalement, on détruit encore là tout un écosystème qui est important. Et et ce qu'il faut savoir, ça va, c'est clair ?
Oui, non, c'est que j'ai à dire sur ça, mais vas-y, finis, ouais. J'interviendrai.
Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça crée du travail, mais il faut voir les conditions de travail, effectivement, pour les Maliens qui sont engagés dans ces exploitations. Et après, il y a des accords aussi, c'est-à-dire que c'est la Libye, en fait, c'est juste du riz qui est destiné à l'exportation vers la Libye.
C'est pas
les Maliens qui
manger,
en profitent.
Ouais,
et il y a même une clause hallucinante dans le contrat, dans l'accord entre le Mali et la Libye, qui spécifie que les Maliens ont le droit de se servir dans cette production uniquement en cas d'extrême famine. Alors un début de famine, non, mais après, si c'est vraiment très très grave, d'accord, ils ont le droit de prendre un peu de riz, quoi. Je trouve ça hallucinant, quoi.
Mais c'est surtout qu'ils ont sacrifié leur terre sur laquelle il y avait toutes les cultures avant de manioc, qui faisaient une diversité, une biodiversité, une richesse du sol, pour planter uniquement qu'un seul et même produit sur des surfaces hallucinantes. Et qui ne servent même pas à produire leur matière première pour eux-mêmes se nourrir, et qui n'est pas forcément plus logique par rapport aux conditions climatiques
du
pays. Donc ça va à l'inverse de toute agriculture raisonnée, logique.
Moi, j'ai une question un peu pour me faire l'avocat du diable. Est-ce que finalement, parce que le cas de figure que tu nous expliques, ça reste dans le domaine de l'agriculture. On n'enlève pas les paysans pour mettre des supermarchés ou je sais pas, des industries, etc. C'est pour mettre des rizières. Est-ce que finalement, ce livre n'est pas plus écologiste qu'agricole, finalement ? Les questions qui sont posées.
Alors en fait, non, mais c'est vrai que c'est très écolo, mais c'est pas incompatible avec l'agriculture, l'écologie, et du coup, elle défend vraiment les paysans. Ça peut être même le paysan, on va dire, au Mali, qui se nourrit exclusivement avec sa production, qui ne vend pas forcément, mais un paysan, c'est ça aussi, c'est vivre de sa terre. Et c'est tous ces paysans-là dont les droits sont quand même bafoués pour des accords entre les États, quoi.
Ça défend un certain style d'agriculture.
Ça défend un certain style d'agriculture, mais il faut savoir que tout ce riz qui est planté sur des centaines de milliers d'hectares, ça appauvrit aussi la terre. Ça appauvrit la terre, ça appauvrit la richesse du pays. Il y a plein de choses, en fait, qui... Puis qui sont assez logiques dans ce qu'elle dit, quoi.
Est-ce que c'est maintenir une agriculture aussi que de dire à des gens, vous produisez uniquement cette chose et en échange, on va vous donner de l'argent pour qu'à votre tour, vous puissiez acheter des produits qui viennent d'ailleurs, alors qu'à la base, peut-être, effectivement, ils n'avaient peut-être pas des conditions de vie, notamment au Mali, qui soient extraordinaires, mais est-ce que, justement, on n'aurait pas pu encourager la fabrication, par exemple, de produits dérivés à partir de richesses qu'ils avaient déjà? Comme ils font au Sénégal, des fois ils prennent le manioc qui était un peu la pomme de terre de là-bas, et de dire voilà, ben, vous allez en faire des pâtes, vous allez en faire des produits dérivés pour pouvoir vous nourrir et non pas ben, tout raser et faire de la monoculture. Voilà.
Moi je l'ai toujours dit, Valérie, présidente du monde, c'est beaucoup. Est-ce que tu as lu les deux autres tomes?
Alors,
pas du tout.
Non, mais ça m'a donné envie de les lire. Alors du coup, je vais juste effleurer, parce que là j'ai parlé effectivement du chapitre colère, effectivement, il y a plusieurs choses qui la révoltent énormément, mais elle apporte aussi certaines solutions. Donc par exemple, sortir de la logique du marché, rompre avec la toute-puissance des sciences et des techniques, retrouver certaines formes d'autonomie, voilà, au niveau du développement, essayer de voir comment est-ce que ça peut passer autrement que par la simple forme économique. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et elle donne un exemple. Par exemple, la Suède, ils ont proposé un texte en 2009, donc il n'y a pas si longtemps, à l'Union européenne, qui s'appelait « Recommandation pour une alimentation plus respectueuse des enjeux climatiques ». Donc ça recommandait tout simplement de manger et d'acheter local, de limiter la consommation de riz qui engendre beaucoup de méthane, de manger des poissons qui ne sont pas menacés, d'éviter l'huile de palme, etc. Donc ça vous semble logique, tout ça?
Ils recommandent le riz.
Non,
merci à la Libye.
De ne pas manger de riz. D'éviter le riz parce que ça engendre beaucoup de méthane, en fait. Et donc tout ça, ça semble logique, mais l'Union européenne ne valide pas le texte. Et pourquoi? Parce que cela entrave le principe du libre-échange et défavorise les produits à l'export. C'est ça. Voilà, la Suède a été accusée de favoriser ses seuls produits, etc. Mais c'est pas... Enfin, tout est sous le couvert de l'économie, en fait. Et c'est dommage parce qu'au niveau biodiversité, au niveau écologie, ça va... Enfin, on sait bien qu'on va à la catastrophe, quoi.
Mais plus près de nous, il y a 3 semaines de ça, il y a des enseignes de grande surface en France, enfin dans nos départements limitrophes, qui ont dit, pour soutenir les agricultures françaises, qui ont dit voilà, ben nous on s'engage, certes, il y a un prix au kilo pour le porc. Ben nous, on va l'acheter, on n'achètera pas en dessous de tel prix. Alors, je n'ai pas le prix en tête parce que ce n'est pas mon cœur de métier, mais justement, l'Europe s'est indignée en disant non, parce que niveau concurrentiel, si vous achetez à ce prix-là, ben vous n'êtes plus, enfin, on ne fait plus marcher la concurrence. Donc, d'un côté, on se dit, ben oui, effectivement, il faudrait acheter local, acheter en direct. De notre côté, on interdit aux grandes surfaces qu'on critique souvent de pouvoir acheter à prix correct. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue de tout ça.
Réponds à Stéphane Le Foll, s'il te plaît.
Non, c'est mon père qui m'appelle et qui est paysan.
C'est pour ça. D'ailleurs, dans l'actualité, il y a la loi sur la biodiversité qui a été votée hier dans la nuit avec une grande question sur l'interdiction de pesticides.
Sur les abeilles, oui.
Sur les abeilles, qui finalement a été cet amendement a été, enfin, cette loi a été acceptée pour interdire ces pesticides, mais en décembre 2018 au lieu de janvier, et également avec 30 voix contre 28 de députés. 30 voix contre 28, donc c'est passé de 2 voix, et il faut préciser que sur une loi qui est quand même importante au niveau de la biodiversité, il n'y a que 58 députés qui étaient présents pour la voter. Voilà, c'était un petit message à
On aurait dû mettre le jingle coup de gueule, là.
On aurait pu le mettre. Oui, mais finalement, ils ont... Bon, bien
oui,
que
finalement,
repoussé,
ça s'est passé, mais bon, 2018,
bien que ça soit repoussé,
au rythme où ça va, les abeilles...
Ouais, 300 000 colonies par an qui meurent depuis 1994 à cause de ces pesticides. Selon les scientifiques.
Voilà, bah pour finir, voilà, ça aborde des questions vraiment complexes, mais elle réussit à être claire. Et c'est vraiment intéressant. Et je suis vraiment heureuse d'avoir lu ce livre. Ça m'a ouvert, même si voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il faut pas aussi, c'est pas une Bible. Il faut pas. Enfin, même si je ne crois pas à la Bible, mais voilà,
c'est pas la Torah, c'est pas le Coran.
Voilà, c'est pas un texte sacré, mais ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses et de prendre conscience de certaines choses. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Héloïse. Chez Actes Sud, d'accord, c'est noté. Valérie, Pauline, Valérie. Pauline.
Moi, il fait vachement écho à celui d'Héloïse. Hein. On est un peu dans la même veine. Donc moi, je vais vous parler de Foutez-nous la paix de Isabelle Soporta chez Albin Michel. Alors moi, ça va être un peu plus grand public, on va dire. Ça s'adresse plus à voilà, tout le monde. C'est un texte, c'est abordable, c'est lisible. Donc Isabelle Soporta, elle est journaliste à la base. Elle a longtemps préparé notamment les émissions de Jean-Pierre Coff sur France Inter. Elle a écrit pour Marianne, elle a fait des chroniques sur Europe 1. Et elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un qui a fait notamment beaucoup parler d'elle juste avant le Salon de l'agriculture en 2011, le livre noir de l'agriculture chez Fayard. Donc dans ce livre, elle pointait du doigt les excès de l'agriculture intensive, l'emploi des pesticides, voilà tout ça qui assassine ben, les paysans, notre santé, l'environnement. Elle a récidivé en 2014 avec Vino Business, qui a d'abord été un bouquin et ensuite il y a eu un documentaire. Voilà, donc sur l'industrie du vin, ses dérives, c'est voilà ce qui s'y passe. Donc cette fois, dans Foutez-nous la paix, qui est sorti juste avant, encore une fois, juste avant le Salon de l'agriculture. Vous l'avez sûrement entendu à la radio, vu à la télévision, elle a été un peu partout. Donc elle dénonce les excès en fait des normes administratives et environnementales qui sont un vrai frein à l'agriculture dite de terroir. Donc, en fait, la naissance de ce bouquin, c'est qu'au moment de la sortie du livre noir de l'agriculture, un éleveur laitier s'est un peu remonté contre elle et lui a reproché « Voilà, vous nous tapez dessus, mais vous ne vous demandez même pas à quoi on fait face au quotidien. » Donc, elle a décidé d'entamer un tour de France des agriculteurs, de petites exploitations, pour comprendre ce que ce monsieur voulait dire. Donc, elle a mis plus d'un an à faire son enquête. Elle a essayé de couvrir un maximum de régions, donc elle est arrivée à 12 au total, sur tout le territoire, y compris la Corse. Elle a choisi, dit-elle, les fermes de façon arbitraire. En fait, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Et surtout, elle insiste là-dessus, elle a autofinancé son travail. Voilà, elle a financé sur la vente de 6 livres. Donc, elle entame son bouquin en nous disant qu'elle appelle la France le pays des 400 000 normes. Alors, je sais pas, j'ai pas trouvé si le chiffre était vrai.
Il y a beaucoup de normes. Hein,
ouais, ça paraît pas impossible. Ouais. Et donc, voilà, on a une multitude de normes qui pèsent sur les agricultures et qui peuvent, voilà, du jour au lendemain, finalement, faire de leur vie soit un enfer, quoi. Vraiment, ça peut... voilà, un inspecteur qui passe, telle norme n'est pas respectée, on va tuer toutes vos poules, on va... Enfin, c'est vraiment extrêmement lourd. Et du coup, c'est un peu... Ce livre, c'est un ras-le-bol. Elle interroge les agriculteurs. Et ce qu'on ressent, voilà, c'est... Il y en a marre, quoi. Ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. C'est des normes, ils ne les connaissent même pas toutes, finalement, parce que c'est trop important. Il y en a qui sont franchement complètement aberrantes. Alors, l'exemple tiré de ce livre, et je pense que à chaque fois qu'on en parle quelque part, on cite cette norme, c'est celle de la végétation concurrentielle. Concernant une certaine AOC en vin, si ton herbe dépasse d'un centimètre et demi, deux centimètres, tes herbes au pied de tes vignes, la mesure demandée, tu peux être déclassé, ressorti de l'AOC pour... Donc là, c'est en plus le cas d'un agriculteur qui veut passer en bio. Donc il fait des tests sur les herbes, faire pousser les herbes pour faire venir certains insectes et pas d'autres. Donc il laisse un peu pousser son herbe et il perd son AOC. Donc voilà, c'est des choses aberrantes à n'en plus finir. En plus, on a même apparemment en France un certain zèle des inspecteurs qui exigent l'application de normes qui sont parfois hyper imprécises, voire inexistantes.
Inexistantes. Contredisantes l'une de l'autre.
Ouais, voilà, là encore... Ouais. Ça, il y a des exemples partout dans son bouquin. Et d'ailleurs, il y a le combat d'une agricultrice corse qui est sympa là-dedans parce qu'elle s'est donnée pour mission justement d'informer les agriculteurs de tout ça. Elle fait pour eux les recherches. Elle va voir, on dit à tel paysan, tu vas recouvrir toute ton exploitation de carrelage du sol au plafond à tes frais qui vont, ça va te coûter un bras. Et puis finalement, elle cherche le texte, elle le cherche. Il n'existe pas ce texte sur le carrelage nulle part. Donc voilà, en plus, l'Europe fait des normes qui sont a priori plus larges que celles qui sont exigées derrière par les inspecteurs en France. Donc c'est très très lourd.
Surtout, voilà, pour revenir, pour faire écho au livre d'Héloïse, à une époque où la mondialisation est de mise, où on nous explique que voilà, maintenant la nourriture va arriver du Chili ou d'autres endroits, comment être en concurrence avec ces pays-là, quand on a des cahiers, des charges, c'est ce que les exploitants lausériens expliquent aussi, qui sont des fois totalement inepties, comme cette histoire de l'herbe qui pousse complètement.
Alors en plus, oui, c'est ça, c'est que. Alors, il existe des petites mesures de flexibilité pour les plus petits exploitants dans certains domaines. Mais alors, bon, déjà, parfois, les paysans n'en ont pas connaissance. Ils doivent demander une dérogation. Et puis, finalement, ils vont obtenir cette dérogation et leur travail va s'en trouver limité. Un agriculteur corse, par exemple, qui demande cette dérogation, il va plus avoir l'agrément de la communauté européenne. Donc, il pourra plus faire sortir, par exemple, son lait, au hasard, de Corse. Donc c'est sans queue ni tête et tu sens vraiment que t'en peux plus. Franchement, tu lis ce bouquin, tu te dis mais comment ils tiennent, comment ils ont vraiment un goût, je pense, les petits paysans qui se maintiennent, ils ont un goût de leur métier, je pense. Hallucinant.
Voilà, bah, je vais peut-être te poser une question piège, mais c'est pas le but, mais quand tu parles de petite exploitation, elle s'est rendue dans des petites exploitations, c'est combien, par exemple, de bêtes, tout ça? Est-ce qu'elle le dit? Est-ce qu'elle
oui,
le donne?
Oui, elle le dit. Alors, j'ai pas noté de chiffres. C'est bien dommage.
D'accord.
Ouais, pendant que Pauline cherche, juste, est-ce que tu peux considérer petite exploitation entre quelqu'un qui va avoir, ben, comme on a ici, des vaches laitières, ou tu vas, enfin moi je connais bien l'Aveyron avec des brebis qui font du lait de Roquefort, ou si tu montes sur des terres justement de production de céréales, la notion de petit ou grand, elle va pas être la même. C'est-à-dire que tu peux vivre sur une exploitation ovine laitière, peut-être sur une exploitation plus petite, que si tu fais de la céréale, il te faudra une exploitation beaucoup plus grande pour avoir le même revenu. Enfin, c'est difficile de comparer exploitation. Quelqu'un qui va faire uniquement que du lait, de la transformation de lait de chèvre en bio, va pas avoir les mêmes besoins que celui qui va faire de l'agriculture intensive, des élevages, des plateaux, des mille vaches.
Enfin,
C'est vrai, c'est compliqué. Oui.
Pour moi, il ne devrait pas y avoir une seule norme, mais il devrait y avoir effectivement qu'il y ait des contrôles, c'est bien, il ne faut pas qu'il y ait d'abus, mais il faudrait qu'ils prennent en compte un peu plus aussi le métier, le respect du métier, de la terre, de la façon, et de l'environnement, parce que tu ne peux pas demander le même rendement à quelqu'un qui est sur la Margeride que quelqu'un qui est dans les Cévennes, que quelqu'un qui est sur l'Aubrac, rien qu'en Lozère. Donc, de là, aller mettre une norme unique pour tous les agriculteurs français, c'est.
Mais oui, en plus, c'est ça, aussi, qu'elle dénonce, c'est qu'on ne prend pas en compte les cas isolés, les différents terroirs, les différents environnements, tout. Ça peut pas être la même règle pour tous, finalement. Voilà. C'est vraiment ça qu'elle dénonce. Elle est clairement contre l'agriculture industrielle. Donc ça, on le ressent vraiment dans son ton. C'est pas ce qu'on ressent, par contre, de la part des agriculteurs qui sont plus dans son enquête. On les ressent plus juste... Bah, foutez-nous la paix, clairement, c'est le titre, et c'est plus ça. Elle, par contre, elle est vraiment en colère contre les grosses industries, contre la FNSEA. D'ailleurs, moi, j'avais du mal à comprendre la FNSEA, comment on se retrouve avec un syndicat si majoritaire qui n'a pas l'air du tout d'être dans la réalité des choses. Bon, bah voilà, elle nous donne des éléments d'explication, elle nous guide. Donc, c'est vraiment très intéressant. Sur son côté, elle a un côté, c'est dommage, très très orienté. Mmh. Elle est très en colère contre les grosses industries, et on le ressent peut-être un peu trop à mon goût. Mais pour entendre parler les agriculteurs, enfin les agriculteurs qu'elle a choisis en tout cas, c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est à lire, c'est bourré d'informations, c'est vraiment très intéressant comme bouquin.
D'accord, voilà. Et concernant les syndicats, la FNSEA, il n'y a pas non plus que des grosses exploitations qui sont au sein de ce syndicat, ne défont pas obligatoirement que les grosses exploitations. On a tous l'image de Xavier Belin, qui est le président, qui lui, en plus, lui, là, il ne fait même plus d'agriculture. C'est vraiment un politique. Mais bon, c'est un autre débat. Pour revenir sur le livre, est-ce que finalement, ces 200 pages, je vais pousser à l'extrême, mais ce n'est pas un peu barbant de se lire des normes pendant 200 pages?
Et non, parce que finalement c'est très varié. Après, on voit plusieurs types. Elle va avoir quelqu'un qui va faire du vin, quelqu'un qui fait du lait, du fromage. Enfin, déjà c'est très varié en termes de métier. Et en plus, elle va nous glisser des chapitres sur la santé, sur les. C'est, très très varié, c'est bourré d'informations. Je pense que c'est un livre en plus qu'on peut relire parce que il y a plein d'infos. Non, c'est pas barbant du tout, vraiment pas. On accroche, ça se lit bien et vite. Non, c'est intéressant. Moi, je le conseille.
Super, merci beaucoup, Pauline. Ça a l'air bien intéressant. C'est parce que nous on va faire marcher l'agriculture locale. Je vais ouvrir une bouteille de vin. Et en même temps, Valérie va me parler d'un livre qui parle du milieu viticole.
J'attends que tu nous fasses le jingle peut-être pour parler de ce livre.
Je suis pas prêt. Vas-y, commence.
En fait, c'est une BD. J'attends vraiment pour présenter pour que je puisse avoir mon petit jingle. Donc c'est une BD qui s'appelle Les Ignorants. Alors elle n'est pas toute récente parce qu'elle a été publiée en 2011. Et c'est un livre, une BD croisée. C'est un auteur de BD qui a passé un an et demi avec un viticulteur pour découvrir son métier, mais aussi faire découvrir son métier donc au viticulteur. Merci pour le jingle. Donc c'est donc Étienne Davodeau et Richard Leroy qui vont cohabiter pendant un an et demi. Et cette BD, c'est leur biographie, enfin l'autobiographie pour Étienne Davodeau de ce moment de vie. Alors très très intéressant parce que les deux se découvrent au départ un peu comme deux étrangers avec leur mode de vie totalement différent. Et c'est très très attachant parce que les deux jouent vraiment le jeu de s'intéresser de l'un à l'autre, de leur métier, de comprendre pourquoi cette passion. C'est vraiment passionnant. Alors c'est une BD qui est assez longue à lire. Hein. C'est pas une BD en 30 pages qui se lit en un quart d'heure.
Oui, il y a beaucoup de textes aussi.
Ouais, il y a énormément de textes. C'est bourré de petits passages absolument plus magnifiques les uns que les autres. On découvre aussi. Moi, je connaissais un peu le milieu du viticulteur parce que on a un ami qui est viticulteur justement qui avait ce bouquin chez lui. Donc, je redécouvrais et par contre, je découvrais aussi le métier donc d'auteur de BD en même temps que le viticulteur. C'est complètement passionnant de voir la passion que les gens peuvent avoir dans leur métier et c'est retranscrit dans la BD de façon tout à fait douce. Pourtant, c'est deux hommes, les deux protagonistes, c'est deux hommes quand même qui ont un caractère bien trempé. Mais ils sont hyper attachants, l'un par sa passion, par son goût du terroir. Enfin, je veux dire, il est le viticulteur, il est un cep de vigne en fait. C'est-à-dire qu'il est, il fait qu'un avec son terroir. Et on a l'impression que si on l'approche, on va sentir sa terre, son caillou, son soleil, son vent, sa pluie. Il est incroyable et tout passe en fait. Tout passe dans la BD. C'est vraiment super. Et il y a les passages aussi, il est dans sa vigne, il est donc, comme je disais, très implanté dans son terroir, mais il accepte de découvrir les auteurs de BD, la BD. Donc il part chez l'éditeur donc d'Étienne Davodeau, il part rencontrer des auteurs dans un festival et il se prend au jeu. Et ils échangent en fait pendant les 3 mois que dure la taille des vignes. Ils échangent, l'un apporte à l'autre sa connaissance en viticulture et l'autre va lui apporter sa connaissance en BD et puis ils échangent. Et ça crée des situations très intéressantes dans le sens où c'est que par un moment le viticulteur va dire oui ce livre que tu m'as passé je le trouve un peu compliqué à lire, ça m'apporte pas grand chose et l'auteur en fait arrive à lui faire écho avec le vin en disant il faut des BD grand public parce qu'il y a des gens qui recherchent ça, de la même façon qu'il y a des buveurs d'étiquettes de vin, des gens qui vont boire du vin parce que l'étiquette. Et d'un autre côté, il faut aussi des BD un peu différentes, un peu spéciales, qui te questionnent ou qui te questionnent pas du tout, justement, mais qui questionneront d'autres personnes. Et de la même façon qu'il va falloir des vins un peu différents, qui correspondent pas forcément aux normes standards. Voilà. Et donc, pendant tout le livre, c'est ça. C'est des échanges avec plein de...
En BD.
Ouais, en BD. Et c'est super beau. Il y a plein de... Par contre, à l'intérieur, on a plein de petits passages qui sont assez forts. Donc, j'en ai noté quelques-uns, si vous me le permettez. Parce que le travail de la vigne, il est quand même assez dur. Parce que là, il essaye de faire tout plus ou moins de façon manuelle. Il utilise très peu de... Il pourrait avoir Monsieur Leroy, il pourrait avoir un label bio, mais il veut pas. Parce que pour lui, c'est une logique, en fait, qu'un produit agricole soit bio, c'est l'inverse. On devrait plutôt marquer sur les bouteilles de vin non bio, attention, pesticides utilisés, et non pas bio. Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu chez des personnes qui sont ou en conversion bio ou en bio, de dire, voilà, ce qui n'est pas normal, c'est de marquer que c'est bio. C'est l'inverse qui devrait être mis en avant. Donc là, ils viennent de passer beaucoup de jours à tout désherber. Et l'auteur donc écrit « Je ne peux m'empêcher de constater le gars qui désherbe ses vignes chimiquement à côté. C'est quand même vachement moins fatigant que votre technique. Hein. » Donc on voit le paysan d'à côté qui est avec son tracteur enfermé avec son masque et en train d'épandre ses pesticides. Et là, le vigneron répond « Tu as remarqué, dans sa cabine, avec sa combinaison et son masque, aujourd'hui, ce mec-là ne va sans doute pas toucher ni sa terre, ni sa vigne. La proximité physique et donc mentale du vigneron avec son travail. Pense à ça quand tu boiras ton vin. » Et c'est vrai que là, on se dit « ouais, effectivement. Si, » alors moi, je ne suis pas une pro bio, mais je suis pour le raisonner. Je trouve que c'est intéressant de se rappeler ça.
Enfin, t'es la seule personne qui a chez toi des bières bio, hein, mais bon. que je connaisse, du moins.
Parce que les pas bio sont bu. Mmh. Qui restent, en fait.
C'est ça, ouais. Non, pas de bulles, d'ailleurs. Les bières bio de Valérie n'ont pas de bulles.
Non, mais c'est une horreur. C'était des prototypes à l'orange, faut respecter. Voilà. Et après, il y a le côté vraiment purement sur le vin. Et puis après, il y a les moments de partage, comme ce moment-là où se chamailler sans fin au sujet des vins bus et des livres lus, c'est le moment où la mauvaise foi est la bienvenue. Si elle contribue à la vigueur des débats, peut-être que ça sert à ça aussi, le vin et les livres, s'engueuler tranquillement. J'ai trouvé ça génial. Et c'est plein. Enfin, là, j'en ai qu'une page parce que je ne pouvais pas tout lire à la radio. Mais c'est deux personnes qui sont totalement différentes, qui sont pleines de bon sens, qui parfois ne sont pas d'accord, mais se respectent. Et ça donne un livre fantastique. C'est, voilà. Si y a un livre à lire sur quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, au vin et qui a envie de faire un cadeau à quelqu'un qui aime bien le vin, ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, il parle de plein de petits terroirs, de petits cépages, de la façon dont on construit un vin de A à Z, puisque là, il a passé un an et demi avec. Donc, c'est passionnant. Et quelqu'un qui s'intéresserait, enfin, qui par contre aurait déjà, j'allais dire, un pied dans la vigne et qui s'intéresserait à tout ce qui est BD, ça se croise très bien.
Et ce qui est original aussi, c'est que on voit souvent des livres qui sortent de dialogues entre deux personnes, de mondes opposés. Et là, c'est une BD, donc c'est d'autant plus intéressant. Le crayon de crayon, tout ça, vu qu'on est dans les livres,
on est sur du noir et blanc. Moi, j'avais lu des avis sur Internet où les gens disaient que le trait était assez grossier. Moi, je le trouve justement très très fin.
Oui, il a l'air fin.
Ouais, alors après, c'est peut-être l'écriture, enfin, je sais pas comment.
C'est que les gens ont bu du vin avant.
C'est ça. Mais par contre, ça donne envie de boire. Hein. Enfin, je préfère avertir les lecteurs. Là, je n'ai en tête depuis deux jours que de boire un petit blanc de.
Mais du coup, d'Avodo, tu connaissais ou pas, Valérie?
Oui, je connaissais de par. Oui, vous savez, j'ai perdu son.
Valérie d'Avodo.
Valérie d'Avodo. Merde, Crudy, j'ai perdu le.
Le chien qui louche?
Non, la BD qui a été mise en film après.
Lulu femme nue.
Lulu femme nue, ouais. Voilà, merci.
Et Davodo a écrit pas mal sur l'agriculture aussi. Il a écrit un livre sur un agriculteur qui s'appelle La gloire d'Albert, qui est très touchant aussi. D'accord. Et donc, c'est un milieu qui l'affectionne beaucoup et je pense qu'il arrive bien à le retranscrire. Dans ses propos, quoi, dans ses BD. Ouais.
Ah, moi, j'ai trouvé chouette. Vraiment super.
C'est un vigneron d'où
De l'Anjou.
De l'Anjou. C'est où l'Anjou?
Nord-est, en dessous de la Bretagne.
D'accord.
Ah, nord-est, non.
Nord-ouest. Nord-ouest.
Nord-ouest, parce que nord-est.
Je sais pas où est l'Anjou, mais.
Il faut que je décide, là, quoi. Non, c'est nord-ouest. Enfin, nord-ouest, non. En dessous de Nantes, là-bas.
Je retire ma question.
Non, mais elle est très pertinente dans l'Anjou. Ouais.
D'ailleurs, ils vont construire un aéroport sur les vignes de ce monsieur.
Je pense pas, parce que par contre, mon coup de gueule, c'est ça, c'est qu'il a toujours une petite exploitation, c'est-à-dire il est très méticuleux sur le raisin qu'il choisit. Pendant les vendanges, il est très tatillon pour pas justement, parce qu'il y a beaucoup de vins sucrés blancs qui se font, et lui, il veut pas le vin sucré, il veut garder sa marque de fabrique. Il fabrique pas plus depuis qu'il est entre guillemets célèbre, hein, parce que ce livre lui a donné une notoriété forte. Par contre, il y a quand même des gens qui, je peux pas dire des qui apprécient pas le vin, parce que moi j'y connais rien en vin, mais j'aime le côté festif qu'il peut y avoir, convivial de boire du vin. Mais il y a quand même des gens qui vont se procurer, enfin qui essayent de se procurer son vin pour dire voilà, j'ai du vin de Monsieur Leroy, et je trouve ça un peu dommage de pas laisser aux aux amateurs lambda, en fait.
Je vais dire aux alcooliques.
Ouais, aussi. mais c'est que ça devient dur d'en trouver. Et je trouve ça un peu.
Parce que tu as cherché pour l'acheter.
Mais c'est super pour lui parce qu'il vend bien. Du coup, je pense que c'est pas un luxe aujourd'hui de pouvoir vendre sa production. Mais je sais pas. Ouais, il faut pouvoir arriver à le vendre à des gens qui vont le partager, non pas des gens qui vont le stocker dans la cave en disant « Regarde, tu vois, j'en ai un de chez lui, mais on ne va pas le boire. » Voilà.
Oui. C'est du blanc.
C'est du blanc qui fait.
Ouais. D'accord, j'aime pas. Aller le voir, ce monsieur.
Ouais, il faudrait qu'on y monte. Mm. Ouais,
tu aurais pu nous présenter, mais on l'a déjà présenté, remarque, le livre que tu avais acheté à Angoulême il y a 2 ans.
Oui, sur la BD en 3D, là.
Sur la BD en 3D.
C'est Médoc, ça s'appelait.
Ok, allez, grand moment de cette émission après la pause musicale avec la présentation de mon livre. Mais en attendant, on va écouter Princesse Chelsea. Aucun rapport avec le thème, j'imagine.
Bah non, j'ai cherché des chansons sur les paysans, mais c'est très grivois, soit c'est très vulgaire, soit c'est très cucu. Donc je me suis dit, bon.
Si, tu aurais pu prendre de Massilia Sound System.
Amis musiciens, essayez de composer des chansons chouettes sur l'agriculture.
Voilà cette très jolie chanson de Princesse Chelsea. On va vite passer sur mon livre. Je remercie Héloïse de m'avoir donné un livre court parce que voilà, j'ai eu un heureux événement il n'y a pas longtemps, donc je dors pas beaucoup. Donc j'ai des difficultés en plus du travail des enfants et du foot de lire des livres. Et oui, il y avait la Ligue des Champions d'ailleurs.
Rappelons que le tirage au sort a eu lieu.
Le tirage au sort a eu lieu et nous reviendrons dessus dans l'instant sport lundi prochain. D'ailleurs, en parlant d'instant sport, on remercie Aurélien Lacaze pour le vin qu'on est en train de boire, qu'il avait amené pour l'instant sport justement.
Aurélien, fin connaisseur de vin, qui organise, qui participe parfois à des dégustations et qui paraît à de très bons goûts.
Oui, un bon Saint-Chinian aujourd'hui. Tiens, on va pas faire de pub, mais. Oui. Donc Héloïse m'a prêté pratiquer l'art et la matière vétérinaire. Donc ce titre veut tout dire. En fait, c'est un livre de photographie sur le monde des vétérinaires. Mmh. Donc voilà, on a le vétérinaire qui caresse le chien, le vétérinaire qui met sa main dans une vache, le vétérinaire qui serre la main de l'agriculteur après. Alors, ce sont de très belles photographies, c'est très très beau, donc par contre je vois pas qui le conseiller, à part aux gens qui veulent faire une carrière de vétérinaire ou aux vétérinaires eux-mêmes, parce qu'il y a des très belles photos d'animaux, mais après il y a des photos parfois un peu difficiles pour des enfants. C'est pas totalement un livre de photographie animalière pour les gens qui aiment les animaux, parce que bon, c'est vraiment sur le métier des vétérinaires.
Le vétérinaire est là pour soigner et pour le bien-être des animaux, donc c'est une étape obligatoire, même si on veut pas mettre les yeux dessus, quoi.
Voilà, donc
Ouais, mais ça fait partie de la vie aussi. Enfin, faut arrêter les enfants. Moi, je suis assez pour cacher certaines images aux enfants, celles qui sont un peu violentes. Là, c'est, c'est le vêlage d'une vache. Quand t'es enfant, que t'habites à la ferme, ben tu vois des veaux naître, tu vois des agneaux naître, et tu te poses pas la question de comment ça se fait un bébé après.
Des agneaux mourir, et voilà. C'est
la vie aussi. Donc là, les images, effectivement, s'il y a du sang autour du petit veau, ça peut choquer, mais de notre côté, c'est peut-être plus facile à expliquer à un enfant avec ce genre d'image qu'avec des téléfilms ou des films où ça va être du faux et du putrage parfois.
Absolument. Non, mais après, c'est un très très beau métier, hein, que le métier de vétérinaire. C'est le métier de médecin, c'est un très beau métier. Celui de soigner des animaux, c'est également un beau métier. C'est un métier important. C'est un métier qui a trait avec l'agriculteur, et les agriculteurs ne peuvent pas, bien entendu, s'en passer. Donc, moi, je comprends tout à fait qu'on fasse un ouvrage dessus et un ouvrage de photographie. Après, je sais pas qui le conseiller. Ouais. Voilà, c'est juste. C'est juste ma question, ouais. Mais voilà, ça méritait
d'être... Oui, non, c'est vrai que c'est assez spécial comme sujet, mais c'est vraiment, c'est un vétérinaire, du coup, qui a fait ce livre et qui prenait des photos aussi lors de ses rondes, en fait, quand on l'appelait, etc. Il est vraiment passionné. C'est lui qui est venu m'apporter son livre à la librairie, qui m'en a parlé, mais après, il n'y a pas de souci, Ludo. En plus, c'est vrai que la fabrication est géniale pour un livre auto-édité. Moi, je trouve ça vraiment super.
Ah, il est auto-édité.
Oui. Après, il y a un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit picto qu'on prend en photo avec son portable. Et ça nous amène, en fait, sur toutes les légendes des photos, parce que le livre, c'est exclusivement des photos à part une préface. Et si on veut en savoir plus, y a toutes les légendes et toutes les petites histoires qui se cachent derrière les photos.
Voilà, ça, je suis pas emballé non plus. Lire un livre avec son téléphone à côté pour avoir des légendes, voilà.
Ouais, mais ça peut être le petit plus quand tu vois une image qui te parle ou.
Voilà, mais tu vois, je savais pas qu'il était autoproduit. C'est d'une très très bonne facture. Hein, c'est une qualité exceptionnelle et les photos sont très belles. Hein. Voilà, c'est juste que.
C'est spécifique.
Tu peux spécifier que c'est vétérinaire aussi de campagne, parce que qu'on pense pas voir juste des
Non, mais c'est principalement vétérinaire dans les exploitations agricoles. Voilà,
ça a quand même un autre. Les deux métiers sont très nobles, qu'on soit vétérinaire des villes ou vétérinaire des champs.
Chihuahua ou.
Voilà, mais je trouve que c'est quand même plus. Est-ce qu'on voit les visages justement des paysans pendant certaines interventions du vétérinaire?
Oui.
Oui. Et alors?
Oui, mais on voit des interventions, on voit les paysans en discussion. Non, il y a pas trop de. C'est vraiment plus axé sur le paysan, sur le vétérinaire que le paysan lui-même. On voit surtout les animaux, le vétérinaire. On voit des fois la personne qui amène son chien ou l'agriculteur, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, hein, c'est aussi vétérinaire. Il y a quelques belles photos d'agriculteurs, mais c'est sûr, il n'y a pas vraiment d'expression suite à l'action qui est en train de faire cette personne-là. Voilà, donc pratiquer l'art et la matière vétérinaire. On parlait de vélage. T'as pas une histoire à nous raconter, Valérie ? Parce qu'alors, il faut savoir. Non, mais. C'est important de le dire parce qu'on parle d'agriculture, de littérature. Alors, autant on peut être calé en littérature, c'est compliqué de parler d'un thème que l'on connaît pas forcément. Valérie,
c'était
donc
pas,
tu le disais.
Pas un vélage. Non, je racontais tout à l'heure à nos chroniqueurs une petite aventure qui m'est arrivée. J'étais enceinte de mon fils, donc avec tout ce qu'on peut ne pas supporter comme odeur. Et mes parents donc sont paysans. On était en pleine mise bas donc des brebis. Et mes parents ont dû s'absenter. Ils m'ont demandé de garder l'exploitation le temps de leur absence. Et mon père, en partant, avec son petit côté Nostradamus, me dit « Ne t'inquiète pas, il n'y aura que 2 mises bas cet après-midi. Tu seras tranquille, juste tu vérifies que tout se passe bien. » Et en fait, de 2, on est passé à 22 mises bas. Je ne savais plus où donner de la tête.
Grosse panique.
C'est ça, voilà, c'est ça.
Ouais. Sur les 1800, 1900 bêtes que...
3892 annuelles et le même nombre en brebis, en fait.
Ouais, voilà. C'est ça.
C'est une exploitation qui fait à peu près 8000 hectares et, et voilà.
D'ailleurs, on a rasé des maisons à Rodez pour gagner
et des vignes.
Une toute petite exploitation, mais dans laquelle on n'a jamais manqué de rien.
Voilà. Très bien Valérie, c'est très beau. Héloïse, un nouveau livre.
Oui, je vais parler d'un manga, d'un petit manga tout sympa, qui s'appelle Les Pommes Miracles, l'histoire vraie d'un paysan en quête de naturel. Donc c'est un paysan qui a une exploitation en fait de pommiers au Japon et qui utilise des pesticides, qui produit beaucoup 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 de pommes en fait, jusqu'au jour où sa femme tombe malade et en fait les médecins disent elle est allergique aux pesticides. Et le pauvre Akinori Kimura, qui est un personnage qui existe vraiment, qui est une légende au Japon et du coup il a le droit à son manga.
Qui habite à Fukushima.
C'est plus pratique avec 4 mains pour ramasser les pommes.
Ouais, c'est ça. Je suis malade à cause des pesticides. Bim, la centrale Fukushima. Ouf.
Donc bref, voilà, sa femme tombe malade et il s'est dit, ça peut pas continuer comme ça. Et en fait, il revoit toute sa façon de produire les pommes et il essaye de faire la pomme miracle, de faire une pomme parfaite sans pesticides. Donc ça implique de faire plein de choses dans l'exploitation, au niveau du sol, au niveau des arbres, au niveau de tout ça. Il reprend tout à zéro. Et c'est un manga, donc voilà, c'est presque un héros mythologique, quoi. Quand tu le vois tout recommencer comme ça, se battre, en plus par amour, enfin c'est très beau, quoi.
C'est une vraie histoire.
Et c'est une histoire vraie, oui, c'est un véritable héros au Japon, ce monsieur, parce qu'il a réussi, à faire la pomme 100% bio et très bonne. Ça lui a pris des années, quoi. Hein, mais voilà, il l'a fait pour sa femme.
Et le manga, c'est toutes ces années. Enfin, c'est vraiment tout ce passage-là.
Oui, là c'est le premier tome que j'ai amené, mais il y en a plusieurs.
Ah oui, il y en a plusieurs, ouais.
Et c'est toute cette aventure, en fait, qui est passionnante, parce que comment tout réapprendre quand on a 50 ans, quand on a toujours fonctionné comme ça. Enfin, c'est compliqué, quoi.
J'ai vu un reportage, je crois sur France 3, et je crois que c'est d'un agriculteur dans le Gard qui fait sa maraîcher et il a récupéré des semences anciennes qui ont disparu, donc pour les réhabituer et il n'arrose pas son jardin.
Il a énormément
de fruits et légumes, donc dans le sud de la France, avec les canicules qu'on connaît, il a aucun souci, il n'arrose jamais. Et du coup, il fait des visites de son exploitation, parce que c'est des semences qu'on a oubliées avec l'ère de l'industrialisation, etc. Voilà, c'était juste au passage un petit aparté.
Non, mais c'est intéressant. Il y a plein de choses à faire, de toute façon.
D'accord.
Je vais pas en parler pendant 20 minutes parce que j'ai raconté l'histoire. Après, il faut le lire et je vous dis, c'est juste très intéressant et très touchant.
Merci, Héloïse. Pauline.
Eh non, j'ai rien d'autre.
Pauline, tu n'as lu qu'un livre.
J'ai lu un livre.
Ouais, mais il était gros, son livre.
Oui, c'est vrai qu'il était gros.
Bon. Je me suis prise un peu tard.
Alors, Valérie.
Moi, ce sera très court aussi parce que comme Héloïse parlait de Japon, j'ai eu envie de parler d'un auteur japonais qui dessine et qui écrit pour les enfants. C'est Wishi Kazano, qui a publié quelques livres pour enfants à l'école des loisirs. Et j'aurais voulu amener le livre ce matin, mais quand mon fils a vu que je prenais ses livres pour l'émission de radio, il me les a piqués des mains pour les amener à l'école. Donc je viens sans le livre. Mais c'est un auteur qui publie, donc c'est un japonais, et à la lecture du livre pour enfants, alors on ressent le Japon, on le prend de plein fouet parce que c'est lent. Le premier que mes enfants ont lu de lui, c'était Bonjour les vaches. Et c'est l'histoire des vaches qui sortent de leur étable pour aller passer leur journée dehors pour aller brouter. On m'a demandé d'imiter le bruit du broutage ce matin.
Tu le fais bien.
Je l'ai fait. Voilà. Donc, pour aller brouter toute la journée. Et en fait, on suit l'histoire de ces vaches toute la journée. Et le soir, Monsieur Inoda, donc l'agriculteur, les rappelle. Elle rentre à l'étable, très fière d'elle d'avoir bien brouté toute la journée pour aller donner du bon lait. Je vous ai raconté l'histoire, même la fin du livre, je suis désolée. Mais c'est fait tout en douceur, c'est beau, ça explique comment ça marche une vache, sans juste ce qu'il faut pour des enfants entre 2 et 7 ans. Voilà, et le dessin est très joli, il y a des couleurs qui sont, qui contrastent avec le papier est blanc, les couleurs sont des couleurs vives. Mais très très harmonieuse entre elles, très c'est tout fluide, ça coule, c'est un livre qui coule, qui est même avec des couleurs vives, qui est doux pour les enfants et qui explique la journée des vaches.
D'accord, c'est pour les petits enfants.
Voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a plein d'enfants qui ne savent pas du tout.
Oui, qui pensent que le lait est mis directement dans une brique.
Mais peut-être même des enfants qui habitent à Mende. Enfin c'est pas parce que tu habites en Lozère que tu le sais. Donc c'est important ce genre de livre sur les fermes, sur les poules, sur tout ça.
C'est vrai qu'on en lit beaucoup, mais celui-là il a ce petit côté intéressant et l'autre aussi. Donc tous derrière le tracteur, il va encore plus loin parce que c'est Monsieur Inoda toujours. Enfin, on suppose, on n'a pas le nom, mais je suppose que c'est le même agriculteur qui est en train de labourer son champ. Ça paraît complètement anodin, mais qu'est-ce qui se passe quand on laboure ? Il y a le ver qui sort, il y a le moineau qui arrive, et là, il y a le héron qui passe, et il y a tout l'écosystème qui arrive derrière. Et c'est pareil, c'est très court, c'est très simple, mais on découvre que la terre, c'est pas juste de la terre, c'est vivant, il y a de l'eau, il y a des animaux, il y a des vers de terre, que ces vers de terre-là, ils produisent... c'est tout simple. Mais c'est une façon d'aborder l'agriculture qui est un premier pas, qui est vraiment très intéressant. Et c'est une personne, en fait, qui avait étudié l'agriculture, cet auteur. Et lors d'un voyage, il a découvert un musée, et notamment les images de Béatrix Potter. Et ça a été une révélation. Il a dit, je vais faire des dessins pour enfants. Et c'est très bien ce qu'il fait.
Voilà. C'est très chouette, effectivement.
C'était pour faire un clin d'œil au livre de Héloïse qui parlait du Japon.
Merci Valérie. Éric Alary, l'histoire des paysans français.
Oui, donc pour finir, en fait, parce qu'il nous reste combien de temps ?
Oh, 7 minutes.
Je ne tiendrai pas 7 minutes, parce que pour tout vous dire...
Mais Valérie a plein d'histoires
de sa jeunesse. En fait, et pour revenir à ce que tu disais, parce que à parté, mais quand il y a le labourage des champs, c'est intéressant d'aller se poster au soleil couchant, parce qu'il y a tous les renards en fait qui viennent, parce que quand on laboure, il y a des musaraignes, plein de choses en fait qui meurent avec. Et donc les renards viennent manger gratis, et c'est très beau comme spectacle.
On dira aussi un mot sur les livres que tu as prêtés à Nico, qu'il n'a pas pu présenter rapidement sur le titre. Ça peut être sympa aussi.
On pourra les citer effectivement. Ouais. Merci Nico.
Ouais. Je n'ai pas vu. Ouais.
Il amène la culture dans les écoles du département.
C'est la petite roulotte, ça peut être sympa, même si ça nous prive de Nicolas.
Ouais. Alors, Éric Alary.
Donc, Éric Alary, l'histoire des paysans français. Donc, ce livre est sorti hier. Donc, je l'ai reçu hier, le jour de la sortie. Mais pour tout vous dire, je n'ai pas eu le temps de le lire, parce que c'est un livre qui fait en gros... 800 pages. Voilà. Alors, c'est vraiment un gros livre, très bien documenté. C'est presque une thèse, en fait, sur cette histoire des paysans français de la Belle Époque jusqu'aux années 2010. Donc il y a des chapitres en fait par décennie. Ouais. Et donc comment en fait la vie des paysans a été bouleversée, comment ils étaient considérés. Il y a tout un tas de choses dans ce livre qui sont très intéressantes.
Et c'est géographiquement localisé ou c'est...
Alors, il y a des apartés, en fait, effectivement, sur certains, les agriculteurs du Nord, enfin, les paysans du Nord, les paysans de Corse, etc. Mais c'est leur histoire globalisée, on va dire. Parce que, par exemple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les paysans étaient très mal en point, au niveau déjà de tous les morts qu'il y avait eu, etc. Même s'il y a certains paysans qui sont restés chez eux pour servir la nation et pour nourrir la nation, etc. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, déjà, il n'y avait pas grand monde dans les villages. Et il y avait une révolution industrielle qui s'engageait. Il y a plein de choses qui sont arrivées parce que la guerre a permis plein d'avancées technologiques, effectivement. Mais du coup, eux, ils se sont retrouvés à se voir imposer certaines choses, certaines machines, certaines choses. Et voilà, donc c'est tout un bouleversement qui a... Et la vie des paysans est véritablement en rapport avec notre histoire à tous, quoi. Donc, je pense que c'est un livre très intéressant. Et qui pourra intéresser pas mal de monde. C'est sorti chez Perrin, donc il y a une maison d'édition très sérieuse d'histoire.
Et Eric Alary, tu as pu te renseigner ou tu connaissais peut-être ?
Alors Eric Alary, non, je connais un certain Alary, mais pas celui-ci.
C'est Damien, qui était président de région, mais non, c'est pas
non,
le
alors
même.
Voilà, Eric Alary est abrégé d'histoire, docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris, enseignant en Cagne et en Hippocagne au lycée Descartes de Tours. Il a été l'assistant de René Raymond, a enseigné à Sciences Po Paris de 1996 à 2010, a été chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po de 1996 à 2015. Il est notamment l'auteur chez Perrin de La ligne de démarcation, Les Français au quotidien, L'Exode, La grande guerre des civils.
D'accord.
Voilà. Très bien, mais c'est noté. Tu voulais, dire un mot sur Depardon aussi ?
Oui, Depardon, oui, parce qu'on parle de livres, mais il y a aussi des films remarquables, en fait, sur les paysans, et notamment Profil paysan, cette série de trois films de Raymond Depardon, dont, en fait, il suit au fur et à mesure des années des paysans, des familles ou des hommes célibataires, dans plusieurs régions rurales, oui, hyper rurales, même en France. Et notamment en Lozère, on retrouve deux frères sur le Cos Méjean qui sont très attachants. Et donc, c'est une série de trois films absolument...
Remarquable.
Remarquable, oui.
Exactement. Tu avais prêté quoi, Nico, que nous ne pouvons pas présenter aujourd'hui ?
Alors, Nico, je lui avais prêté un tout petit roman qui s'appelle « Joseph » de Marie-Sabine Roger, dont on avait déjà parlé ici. Donc, c'est un petit roman sur Joseph, donc un agriculteur célibataire. Que le célibat a un problème aussi chez les agriculteurs, un vrai problème. Et je lui avais prêté un livre qui s'appelle Le Ying et le Yang, qui est un livre de photos et documenté sur l'agriculture intensive et l'agriculture
extensive.
On aurait bien clôturé, ça aurait été chouette d'en parler de celui-là.
Bah écoute, la prochaine fois.
On refera une littérature et agriculture.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup à dire.
Il y a plein de choses à dire et c'est un sujet passionnant.
Très bien, merci beaucoup Héloïse. Qu'est-ce qu'il y a Valérie? Tu as le fermier gourmet
Comment savais-tu que j'avais le fermier gourmet à évoquer?
Mais tu n'as pas dit que tu n'avais plus de livres?
Si, non, j'en avais deux que m'avait donné Héloïse, plus les petits livres pour enfants tirés de ma bibliothèque. Ah, non, pour la petite histoire, mercredi soir, j'ai été voir Héloïse, puisque je n'avais toujours pas été récupérer mes livres. Et le fermier gourmier, elle me dit, écoute, si tu veux, prends un livre de recettes. C'est des recettes terroirs, mais bon, voilà, peut-être c'est du déjà vu, du déjà lu, donc tu
vois. Non, mais j'avais l'impression, tu vois, que c'était un peu passéiste, un peu...
C'est ça, parce que la couverture fait assez trad-trad, il manque plus que la nappe à carreaux et la petite miche de pain. En fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le soir, je suis rentrée à la maison, je vais lire un livre de recettes trad. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est super, c'est vraiment un très beau livre. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, mais c'est traditionnel. Mais normalement, on a des noms qui arrivent comme Maïté, comme Françoise, comme Nadine. Et là, on a Matthew, Nick, Evan et Ross. Et là, je dis, oh, c'est quoi là, le trad, il est où? Et en fait, c'est trois Australiens qui nous promettent des super recettes d'autrefois. Et ils expliquent comment réaliser ces plats d'autrefois. Donc, ils donnent déjà la base, c'est d'avoir des bons produits. Donc, comme ils sont en Australie, on peut toujours courir pour aller trouver leurs bonnes adresses. Mais ils vont expliquer comment faire des conserves, comment fumer de la viande, comment saumurer du poisson. Des petites choses comme ça, qui paraissent en temps normal hyper compliquées. Mais en fait, ils ont vulgarisé tous ces procédés.
Et à la lecture de, donc, du livre de recettes, il y a une explication des recettes, une explication, quelques recettes. On a envie de faire sa ricotta, de faire son mascarpone. Mais
ce sont des recettes australiennes ou...
Non, c'est des recettes, il y a le trifle, j'allais dire peut-être plus anglo-saxon, mais il y a tout là aussi la préparation de la charcuterie telle qu'on la retrouve.
Ces techniques-là, c'est universel, la charcuterie. Voilà,
ouais. Est-ce qu'il y a les manoules et les tripes?
Il n'y a pas les tripous, il n'y a pas les manoules, il n'y a pas le sac d'os, il n'y a pas la bouteille, mais... On a pour faire le bacon, pour faire la pancetta, pour faire... c'est vulgarisé, il explique bien comment le faire, mais de façon simple, et ça a l'air d'être à la portée de tout le monde. Ils expliquent bien que, par contre, attention, le jour où tu vas faire fumer ton poisson, de ne pas le faire dans ta maison, parce que sinon, tu en as pour 8 mois d'avoir l'odeur.
Mais c'est fait simple. Il faut bien le préciser, il y a des gens qui seraient capables de le faire.
Hein. Et c'est hyper vulgarisé.
Sur ta terrasse, Héloïse.
Et comme il dit, ça s'adresse à tous les gourmets, mais ça s'adresse aussi aux bobos qui ont envie de dire, regardez, je fais ma moutarde moi-même.
J'ai une bouteille de vin de chez
Monsieur le Roi. Regardez, j'ai une bouteille de chez Monsieur le Roi. Voilà, et ça méritait d'en parler, parce que même si au départ, quand Héloïse, tu me l'as passé, tu m'as dit, ouais, c'est peut-être un truc trad, on avait vu la quiche.
Oui,
voilà, il y a une recette de quiche, mais en fait, elle est faite avec une super crème, enfin une crème de base qu'il a travaillée. Ça n'a pas l'air super compliqué. J'ai pas
Valérie
eu le temps de
est tombée sous le charme des Australiens.
Oui. Ça va venir de ça, c'est Nicolas.
Ils sont tous mariés. à des femmes végétariennes. Et justement, ça les oblige à sortir encore plus d'idées, de travailler encore plus sur leurs produits de base, justement, pour répondre aux besoins de ces dames.
Oui, parce que la charcute, on n'y est pas là.
Il y a pas mal d'autres choses, en fait, où ils travaillent. Et l'exemple type, là, il y a un gâteau au beurre. Moi, j'achète un livre de recettes de cuisine, je vois gâteau au beurre, ça me fait pas rêver.
Mais c'est moi,
c'est un Queen Amen.
Oui, un Queen Amen, ouais.
Et il y a plein de choses. Et c'est effectivement des recettes qui peuvent être typiques, enfin basiques, mais faites avec des produits, soit qu'on aura travaillé avant, enfin plein de petits conseils. Et il est bluffant. C'est un livre de recettes, mais pas comme les autres. Voilà.
Allez, rappelle-nous alors Le Fermier Gourmet.
C'est Les Recettes Secrètes, le bon goût des produits d'autrefois. Et c'est chez Hachette Cuisine. Et donc, c'est de Matthew Evan, Nick Hadou et Ross O'Meara.
Ok, génial. Merci Valérie, ça donne envie.
Avec grand plaisir. Hein.
Qu'est-ce que tu vends bien tes livres?
J'ai 50% de commission sur chaque vente.
J'espère bien.
Et rappelons bientôt que c'est la race brune, là, Amande, si vous voulez vous intéresser à tout ça.
C'est le 4 avril, ouais. Ça démarre le 4 avril, je sais pas.
Tu es toute la journée en direct sur 48 FM?
Non, je ne pense pas.
Ah bon?
Je
dommage.
Ne sais pas.
Non, il y aura des choses intéressantes, je pense.
Je sais pas. Peut-être. allez, en attendant, nous, dans 2 semaines, on y sera dans le congrès de la race brune, le congrès mondial.
Oui, mais on sera là, du coup.
Et on sera également à la radio pour parler...
de BD jeunesse.
Cool.
Allez, cool, on va s'y mettre dès maintenant. Merci à toutes les trois. À bientôt.
Merci à toi.
Bisous.
Salut.
Ciao.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.